Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Fay au micro. La lutte anti-drogue a échoué et des changements sont urgents dans ce domaine. C'est une des conclusions du rapport de la Commission mondiale sur la politique des drogues qui date de juin 2011. Un rapport qui préconisait d'encourager des modèles de régulation légale des drogues, en particulier du cannabis, afin de réduire le pouvoir de la criminalité organisée et protéger la santé et la sécurité des citoyens. Une conclusion qui rejoint quelque part l'analyse du groupe de travail drogue et assuétude du Centre d'action laïque. Mais quelle est précisément l'approche du CAL en la matière? Au nom de quelles valeurs les laïcs préconisent-ils d'abandonner la logique prohibitionniste? Faut-il distinguer drogue dure et drogue douce, dans ce dossier? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir à nos invités. Anne Cugnon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en charge du dossier drogue au Centre d'action laïque et vous venez à ce titre de signer un article dans le magazine Espace de Liberté dans lequel il est notamment question de rites religieux, anciens ou plus récents, qui font usage de drogue. Vous nous en direz plus dans quelques instants. Christophe Marchand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat spécialisé en droit pénal et vous êtes aussi le président du groupe de travail drogue et assuétude du Centre d'action laïque. Et enfin, Marie-Ange Cornet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice du Centre d'action laïque en province de Luxembourg, le CAL Luxembourg, qui est agréé depuis plus d'un an par la région Wallonne comme service d'aide et de soins spécialisés en assuétude. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Anne Cugnon, je l'ai dit en introduction, vous venez de publier un article qui reprend plusieurs exemples de rites religieux et chamaniques où la consommation de drogue est présente. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'humanité n'a pas attendu l'invention de la musique techno ni du rock psychédélique pour consommer des drogues. Alors, sait-on vraiment pour autant depuis quand les humains se droguent et sait-on aussi pourquoi?
Depuis quand, c'est très difficile de l'établir. On suppose en tout cas que dès que les hommes ont été confrontés à l'exploration de leur univers, des plantes, ils ont forcément découvert l'usage de certaines d'entre elles qui permettaient de modifier l'état de conscience et la perception de la réalité. Alors, on a trouvé au niveau archéologique des vestiges d'utilisation du cannabis et du pavot.
Qui remonte à quelle époque, plus ou moins?
Alors, au néolithique, en tout cas, c'est attesté. Et on a, par exemple, des études récentes qui prouvent que le pavot était cultivé dans nos régions, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et on a retrouvé des graines carbonisées sur les sites archéologiques. Donc, en tout cas, il était cultivé. Alors, il y a notamment une étude récente d'une archéologue espagnole, Elisa Guerra Dosé, qui a montré que c'était assez bien documenté au néolithique dans toute l'Europe, mais on ne peut pas tirer des conclusions sur un usage récréatif. On peut en tout cas dire qu'il y avait un usage sacré lors de rituels, des rites funéraires, et que peut-être c'était très cadré, c'est sans doute très cadré, notamment dans le cadre de cérémonies funéraires de membres de l'élite. Éventuellement, l'idée d'entrer en transe pour atteindre l'autre monde, enfin, un autre monde.
Ah, vous nous citez quelques exemples en Europe, est-ce qu'il y en a ailleurs dans le monde?
Alors, on pense qu'on a découvert en Chine des vestiges aussi de l'usage du chanvre à Xianrendong en Chine, donc qui est un endroit où on a découvert les plus anciennes poteries vers 8000 ans avant Jésus-Christ, avant notre ère, pardon. Vieux réflexe.
Ça reste quand même une référence communément admise pour quelques choses. Après Brian, vous écoutez.
Voilà, après Brian. Et donc on a retrouvé des traces de ces graines dans ces poteries. Donc effectivement, il faut savoir que les plantes ont suivi les migrations humaines et le commerce. Les hommes ont cultivé, ont bougé et les plantes ont suivi. Et éventuellement, des espèces différentes ont été développées à des endroits différents.
Alors, les migrations humaines, parlons-en. Un exemple de migration conquérante, on parle évidemment de la période coloniale, la découverte par les Européens de l'Amérique et de l'Amérique du Sud notamment. Alors, il y a un exemple intéressant que vous citez dans votre article, c'est l'arrivée des Espagnols en Amérique latine. Quelles réactions ont-ils par rapport aux consommateurs locaux de drogues?
Alors, effectivement, on fait remonter les archéologues et les anthropologues font remonter la culture Akoka à l'antique civilisation aymarienne qui vit constituée à 2000 ans avant notre ère en Amérique latine. Alors après, on sait effectivement que c'est devenu la plante sacrée des Incas, mais on pense qu'elle était, on n'a pas d'écrit, donc on pense qu'elle était réservée à l'usage d'une certaine élite. Donc on n'est pas sûr que le peuple entier l'utilisait. Par contre, quand Pissarro arrive et qu'il découvre la coca, l'Église, la première réaction de l'Église est d'interdire, puisqu'elle veut évangéliser et c'est un symbole païen. Donc,
ça, c'est la première réaction.
Ça, c'est la première réaction. Et ensuite... C'est le concile de Lima en 1551. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les colons et les exploitants de mines se rendant compte de l'intérêt économique du fait de mâcher la coca parce que ça rendait les mineurs plus...
Résistants
au travail. Et ça atténuait la faim. Fait modifier et demander au roi d'Espagne d'autoriser la vente, l'usage de la coca. Et donc, ça a été fait, mais en se limitant aux mines, effectivement. Pour des questions de rentabilité économique.
Alors, justement ici, Christophe Marchand, on a un exemple concret dans l'histoire d'une décision tout d'abord prohibitive, ensuite on revient sur cette décision pour des questions purement économiques. Est-ce qu'en fin de compte, cet argument économique est celui qui préside à toutes ces législations qui, au travers de la planète, condamnent l'usage des drogues très généralement ?
Bon, économique, pas uniquement, puisque dans l'histoire du droit de la drogue, il y a eu différentes évolutions liées à l'économie, à des raisons économiques, mais liées aussi à des raisons politiques ou à des raisons morales, religieuses et éthiques. Si on peut prendre un exemple, par exemple, la marijuana aux États-Unis au 19e siècle, elle était utilisée par les travailleurs mexicains, et du coup, ça a été interdit pour marginaliser, stigmatiser cette population à un moment donné, pour l'exclure du marché du travail. Donc c'était une raison à la fois économique, mais aussi j'irais un peu morale, dans le sens où toute cette politique prohibitionniste dont on parle aujourd'hui vient des ligues de tempérance américaines du 19e siècle qui disaient, c'est, en un mot, c'est mal de se faire plaisir, c'est mal d'avoir du plaisir. Et du coup, alors, ils ont suscité au niveau international des conventions, des traités internationaux qui ont petit à petit prohiber l'ensemble de l'usage des drogues.
C'est-à-dire qu'on a étendu cette logique quelque part un peu puritaine qui vient des États-Unis à l'ensemble de la planète. Est-ce uniquement par mimétisme que l'ensemble de la planète s'est accordé sur cette logique-là ?
Bah, alors je crois qu'il y a plusieurs éléments. On a parlé par exemple de la guerre de l'opium, hein, qui était un élément dans l'histoire toujours au 19e siècle. Là, c'est plus entre la Grande-Bretagne et la Chine. Mais c'est clair que finalement, l'argument moral est utilisé à des fins économiques, puisque là, c'était clairement pour assoir une puissance commerciale sur la Chine, justifier aussi l'usage de la force, puisque alors ça a permis de mettre en œuvre des processus militaires, des blocus, la politique de la canonnière à l'égard de villes chinoises. Et donc c'est sûr qu'il y a toujours ce mélange dans la politique internationale de la drogue entre l'économique, le moral et le politique, puisque par exemple si on analyse la manière dont la guerre à la drogue, comme on l'appelle, est menée en Colombie par exemple, ou a été menée en Colombie, c'est sûr qu'il y a d'énormes moyens militaires américains qui ont été mis en œuvre en Amérique latine, notamment en Colombie, pour entre guillemets lutter contre les drogues, mais qui permettaient alors la présence d'une force militaire très, très importante pour pouvoir asseoir l'impérialisme, l'hégémonie américaine sur le continent sud-américain. Donc ça se reproduit à plusieurs reprises. Donc l'argument moral est peut-être juste un argument, on va lutter contre la drogue parce que la drogue c'est mal, mais derrière ça il y a des logiques économiques et militaires et politiques qui sont mises en œuvre, qui finalement questionnent la légitimité de la prohibition en disant, mais pourquoi est-ce que c'est prohibé ? Il y a différentes raisons, comme on l'a dit, morale au début, puis économique et politique.
Une question de santé publique, par ailleurs.
Alors, la question de santé publique est aussi brandie en disant, voilà, c'est pour protéger la santé de la population qu'on va interdire les drogues.
Mais vous n'y croyez pas ?
Non, c'est pas que j'y crois pas, mais moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense pas que la prohibition est la meilleure politique de santé publique.
C'est la question que je voulais vous poser. Alors, en fin de compte, quelles sont les conséquences concrètes de cette logique prohibitionniste ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça a un impact sur la santé publique ?
Alors, moi, je pense que impact négatif, le principal de cette prohibition est par rapport aux consommateurs, aux usagers, que ce soit pour sortir un peu des perspectives internationales et historiques. Aujourd'hui, en Belgique, un consommateur de cannabis, par exemple, s'il a un problème, ou un parent qui est confronté à un morceau de cannabis qu'il trouve dans le sac de son enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Je dirais, le premier intervenant, puisque c'est prohibé, c'est l'intervenant répressif, c'est la police, c'est le juge, le magistrat, alors que ce sont des problèmes de santé, donc ça devrait être le médecin, ça devrait être l'assistant social, le psychologue, et c'est ça pour moi l'élément principal qui vient contrecarrer la politique prohibitionniste, c'est que c'est pas une politique qui permet la meilleure protection de la santé. Or c'est ça le but de ces lois, c'est de justement protéger la santé, mais on voit que ce but n'est pas atteint.
Marie-Ange Cornet, vous êtes la directrice du Centre d'Action Laïque en province de Luxembourg, qui joue justement un rôle de service d'aide et de soins spécialisés en assuétude. Avant de revenir sur l'aspect santé publique, peut-être rappelez-nous quelle est la position du Centre d'Action Laïque en matière de drogue, en matière de régulation, de réglementation.
Voilà, donc la position actuelle, c'est de dire, puisque la prohibition ne fonctionne pas, en tout cas qu'elle a des effets qui sont très néfastes pour la société, essayons d'imaginer une politique qui serait différente. Et nous avons fait avec le groupe de travail drogue, justement, une analyse pour essayer de trouver la meilleure voie pour sortir de cette prohibition. Et donc, l'idée centrale de notre proposition, c'est de dire, bon, la loi de 1921, qui justement est la loi qui réglemente le trafic et la détention de drogue, gardons-la, mais imaginons des dérogations pour la consommation, la consommation personnelle.
Donc, au nom de quelle valeur, tout simplement?
Alors, au nom de quelle valeur? Bon, déjà, pour nous, au niveau du Centre d'Action Laïque, la première valeur, c'est vraiment la question de la liberté de disposer de son corps. Donc ça, on le retrouve dans différents dossiers. On parle d'euthanasie, d'IVG, etc. Donc, quand on a une consommation et si on se centre sur le cannabis, cette consommation n'est pas souvent, je dirais, parce que quand on voit le nombre de consommateurs et le nombre de consommateurs qui ont vraiment des problèmes, elle n'est pas problématique pour beaucoup de personnes. Et donc, ils font choix de consommer du cannabis comme alternative ou en parallèle avec de l'alcool. Donc il y a cette valeur-là, mais il y a aussi toutes les questions liées au fonctionnement de la société, au dysfonctionnement dû à la chasse aux consommateurs. Bon, on a parlé de la pénalisation, mais la pénalisation, ça mène dans un circuit de justice, ça mène au casier judiciaire, parfois à la prison, et donc on se retrouve avec finalement une désintégration sociale, souvent familial aussi, qui est dû simplement au fait que, voilà, moralement et pénalement, le cannabis, je parle ici du cannabis, actuellement, la consommation est illégale.
Christophe Marchand, peut-être une précision. A-t-on une idée en Belgique de la proportion de détenus qui sont enfermés pour question de possession, de trafic ou de consommation de drogue?
Sur la question de la drogue en prison, c'est une question qui est très complexe. Mais donc, il y a des études qui ont été publiées qui tendent à démontrer qu'environ un détenu sur trois en Belgique est détenu pour une question liée aux drogues. Alors, ce n'est pas simplement la détention de l'usage de drogue, mais ça peut être la vente de drogue. Ça peut être aussi la délinquance acquisitive, comme on dit, c'est-à-dire des vols qui sont commis pour pouvoir satisfaire sa consommation. Donc, il y a énormément de détenus actuellement qui sont concernés par cette problématique.
C'est un argument en plus, Marie-Ange Cornet, pour plaider pour une autre approche que la logique prohibitionniste, rien que pour désengorger les prisons.
Oui, pour désengorger les prisons, mais pour sortir effectivement les consommateurs de tout le circuit judiciaire, parce que tous ne finissent pas en prison, mais sont quand même dans le circuit judiciaire. Donc, pour remettre en fait sur la question de la consommation, sur, comme on l'a dit, sur la question de la santé, mais aussi, bon, la liberté individuelle que nous prenons au niveau du Centre d'Action Laïque. Mais ce que nous avons fait au niveau du groupe de travail, c'est quand même analyser la chose en tenant compte des réalités sociales actuelles. Et ce que nous avons fait, c'est donc délimiter l'accès par une série de recommandations. Donc c'est une proposition. Elle est vraiment terminée. Donc si un parlementaire veut s'en saisir, il peut s'en saisir.
Vous attendez que les parlementaires viennent s'en saisir ou vous allez un petit diffuser ce document?
Voilà, on va aller les rencontrer pour leur expliquer l'idée qu'on a de ce que pourrait devenir finalement la loi en Belgique. Donc pour faire simple, l'idée c'est de permettre la consommation de type personnel, organiser la vente et organiser organiser la production, en tout cas au niveau du cannabis. Bien sûr, continuer la protection des mineurs. Donc ça, on ne met pas en cause les lois sur les qui protègent les mineurs, et faire en sorte que le cannabis rejoigne le groupe des autres drogues qui sont en vente de manière tout à fait légale sur le marché, l'alcool et le tabac. Et donc de faire un groupe avec finalement les mêmes règles, si on prend les règles sur la publicité, les règles sur la vente et la fabrication, sont des règles quand même qui sont très strictes au niveau de l'alcool notamment. Et donc il s'agit en fait de copier, oui, carrément de copier les réglementations sur ces produits pour les appliquer sur le cannabis qui est cultivable ici en Belgique. Donc évidemment, on le conçoit comme quelque chose qui serait propre à la Belgique, et pour les consommateurs vivant en Belgique, là, l'accord devrait être pris au niveau de l'Europe si on veut étendre aux autres pays européens.
Alors on viendra plus tard sur la question de la faisabilité, l'aspect réaliste en termes de force politique en présence. Mais je vous propose à présent de faire une courte pause musicale, non sans avoir dit au revoir à Anne Cugnon qui doit malheureusement nous quitter en cours d'émission, mais on la remercie toutefois pour sa présence. On s'écoute donc un morceau de Jefferson Airplane qui a été enregistré en mars 66 où il est question d'un lapin blanc qui semble surgir directement des œuvres de Lewis Carroll. On écoute donc ce White Rabbit et on se retrouve juste après. Christophe Marchand, ce n'est un secret pour personne, hein. Ce morceau de Jefferson Airplane s'inspire d'Alice au Pays des Merveilles, cette œuvre de Lewis Carroll où il est question de drogues dites psychédéliques, le LSD notamment. Alors j'en profite pour vous poser cette question, ne devrait-on pas faire une distinction entre drogues douces et drogues dures dans ce dossier? Ou pour vous la poser autrement, est-ce que cette distinction qui est usuellement faite est pertinente selon vous?
Cette distinction est un peu désuète dans le sens où on l'utilise plus pour l'instant en drogue dure, drogue douce, parce que on utilise plutôt les concepts de usage dur et usage doux. Donc par exemple, si quelqu'un consomme du cannabis 10 grammes par jour, il fait un usage dur, ou 5 grammes, ou je veux dire de manière quotidienne des joints du matin jusqu'au soir, c'est un usage qui est dur. Par contre, quelqu'un qui utilise par exemple, je sais pas moi, 1 gramme d'héroïne par an, c'est un usage doux d'une d'une drogue. Alors ça, c'est le premier concept, la première série de concepts. L'autre série de concepts, c'est lié finalement à la toxicité du produit, j'ai envie de dire, parce que c'est évident pour tout le monde, c'est pas la même chose, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne ou d'autres produits.
Une drogue de synthèse, par
oui,
exemple.
Oui, voilà, c'est ça, ou LSD, dont on parlait ici dans la chanson. Donc ça veut dire qu'au départ, dans la commission au sein du Centre d'Action Laïque, on n'avait pas vraiment fait de distinction. Donc on avait fait un projet global, puis petit à petit, comme on avait discuté avec pas mal de gens, les intervenants, toxicomanie et d'autres gens, on s'est dit qu'en fait il fallait des régimes spécifiques et différents pour chaque drogue, parce que chaque drogue est différente.
Et est-ce que l'aspect addictif de la drogue entre aussi en ligne de compte pour faire cette distinction, pour aborder les différents phénomènes? Ou est-ce que le côté toxique suffit, ou vous faites un lien direct entre addiction et toxicité?
Oui, enfin, le côté addictif, je pense, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ça, on dit toujours une drogue n'est pas utilisée, ou ne réagit pas de la même façon par rapport à une drogue, par rapport à une personne. C'est comme par rapport à des médicaments aussi, d'ailleurs, c'est assez personnel la manière dont on réagit. Alors le côté addictif, oui, on peut penser qu'en effet, il y a ces drogues qui créent une dépendance physique, et puis des drogues qui créent une dépendance psychologique, par exemple. Ce sont des distinctions qui sont faites par l'OMS. Alors, par exemple, pour reparler de drogues légales actuellement, l'alcool est une drogue qui crée une dépendance physique, comme l'héroïne, comme les opiacés. La cocaïne, par contre, selon l'OMS, ne crée pas de dépendance physique, mais une dépendance psychologique. Donc il faut essayer d'être un peu, je dirais, plus complexe dans la façon d'aborder les phénomènes, plutôt que de dire la drogue de manière générale. Je pense qu'il faut qu'on soit... Notre société doit être capable aujourd'hui de pouvoir proposer des solutions différentes adaptées au produit.
Alors parlons d'un produit qui est largement répandu, vous l'avez cité, le cannabis. On sait que plusieurs pays ont récemment décidé de légaliser la consommation et voire même la production de cannabis. On pense notamment à l'Uruguay ou certains États des États-Unis comme le Colorado notamment. Est-ce qu'on a une idée des effets concrets de ces nouvelles politiques?
Mais pour l'instant, non, on n'a pas d'idée, puisqu'il faut quand même laisser le temps au temps. Hein, je dirais, mais bon, c'est clair qu'il y a beaucoup d'effets qui sont positifs par rapport à cette réglementation. Le premier effet qui est recherché, évidemment, c'est de retirer ce marché des mains des criminels, des mafias, des réseaux. Et ça, c'est un succès, puisque finalement, alors l'ensemble des consommateurs va aller se fournir, soit dans le cas de l'Uruguay, auprès d'officines d'État, puisque c'est l'État qui organise tout, soit dans le cas du Colorado, où c'est plus le système libéral capitaliste à la américaine qui est mise en œuvre auprès de sociétés privées.
Très bien. Marie-Ange Cornet, vous travaillez au CAB Luxembourg, on l'a déjà dit, mais rappelons-le pour ceux qui nous prennent en cours de route. Sur la question de la prévention et la réduction des risques, avec un jeune public notamment, c'est surtout un des axes de travail que vous explorez. Vous l'explorez justement selon quelle méthode et avec quel résultat?
Voilà, donc effectivement, prévention et réduction des risques, ce sont deux concepts et deux politiques de santé publique à ne pas confondre. Donc la prévention, elle s'adresse plutôt à un public qui ne consomme pas, et donc c'est ce qu'on va mettre en œuvre dans les écoles. Donc c'est dans les écoles, on fait toujours de la prévention.
Donc vous leur dites concrètement, ne consommez pas.
Voilà, concrètement, ne consommez pas. Et évidemment, dans les animations, ce qui sort, c'est qu'ils consomment. Voilà. Et donc, c'est une des raisons qui plaident en faveur d'une réglementation de la vente, parce qu'il est extrêmement compliqué d'être tenu par une parole qui dit « vous ne devez pas consommer, en plus c'est illégal et donc vous risquez ». Voilà. Et en même temps, leur prodiguer des conseils de consommation. Donc c'est vraiment difficile. Si le cannabis était réglementé au même titre que l'alcool, on pourrait effectivement venir avec des conseils de gestion de la consommation. Un élève qui commence à fumer le matin pour venir au cours, clairement c'est un élève qui met en péril sa scolarité, parce que bon, évidemment, quand on a consommer du cannabis, on ne peut plus étudier, écouter de la même manière.
Et concrètement, comme l'alcool, on pourrait alors évidemment interdire la vente aux mineurs.
Ah oui, ça c'est évident. Donc je disais tout à l'heure qu'on avait en fait regroupé alcool, tabac et cannabis, et ce serait donc le cannabis aussi pour les mineurs de moins de 16 ans, puisque dans la réalité on constate que la consommation est la plus forte, enfin en proportion entre 15 et 24 ans, et donc dire 18 ans, on loupe en fait toute une population, et réintroduire du marché noir uniquement pour cette population est une absurdité. Donc nous on dit pragmatiquement, commençons à partir de 16 ans avec une politique de prévention, une réelle politique de prévention et de réduction de risque. Et là, je viens à la réduction de risque. C'est pour ça que nous sommes reconnus et agréés par la région Wallonne. Donc, on va sur le terrain rencontrer les consommateurs et on discute avec eux de la consommation et finalement, s'ils ont décidé de consommer, de la consommation à moindre risque. Et donc, c'est très utile évidemment, puisque ces produits sont illégaux, donc la communication, l'information sur ces produits est vraiment minimale. Ils peuvent la trouver sur Internet, mais on sait que sur Internet, on trouve le plus et le moins, le faux et le vrai. Donc, on leur apporte les conseils de réduction de risque, ce qui permet d'entrer en contact et éventuellement, s'ils le souhaitent, et avec leur accord et vraiment dans un dialogue, les raccrocher à des services de soins si c'est nécessaire. Et donc, c'est vraiment dans une idée pour certains de raccrochage social et de réinsertion sociale.
Quelle est la réponse du public quand vous arrivez avec ces méthodes, ces propositions ?
Alors, on travaille surtout sur festival et puis on travaille dans les milieux de vie des personnes qui consomment. Donc, la réponse sur festival est globalement positive parce que quand on va sur festival, fatalement, on se rend compte que certaines personnes consomment. Donc, la police n'est pas partout et donc, il y aura toujours des petits coins où on pourra consommer. Et sur festival, elle est plutôt peu présente, ce qui est bien pour permettre quand même, qu'il y ait une certaine liberté d'ambiance, etc. Mais il faut savoir qu'en Belgique, la police est très présente en dehors et aux abords des festivals.
Pas partout, mais presque.
Voilà, donc, voilà. Et c'est bien accueilli. Et si on pose la question, j'étais encore dans une école en début de semaine, on a rencontré une centaine d'élèves de 5e, 4e, 5e secondaire, et on leur pose la question, justement, en tout cas sur le cannabis, de la réglementation de la vente, et ils sont assez favorables, qu'ils soient consommateurs ou pas, puisqu'on trouve des consommateurs aussi à cet âge-là, et ils sont favorables, simplement pour des questions pragmatiques et surtout pour des questions de qualité, entre guillemets, de contrôle des produits.
Dernière question avant de passer à la fin de cette émission. Concernant justement cette approche de réduction des risques, vous avez une approche spécifique en fonction des produits ou bien est-ce que là, c'est une approche transversale que vous développez ?
Donc, s'agissant de conseils de réduction de risque, fatalement, on va s'adapter aux produits consommés. Et donc, les conseils de réduction de risque vont correspondre aux produits. Sur festival en province du Luxembourg, puisque nous travaillons en province du Luxembourg, on rencontre essentiellement l'alcool et c'est pas là qu'on fait de la réduction de risque. Parce que quand les gens ont bu, impossible de faire passer un message. Donc, on fait de la réduction de risque sur cannabis. Et dans les festivals qui ont plutôt un caractère international, on tombe effectivement sur d'autres produits, les nouveaux produits de synthèse, où là, on remarque quand même que les consommateurs sont assez informés. Parce qu'ils se sont informés sur Internet. C'est un type particulier de consommateur. Et puis, il y a les produits habituels, ecstasy, etc. Et là, vraiment, on apporte des conseils qui sont bien utiles parce qu'il y a des risques de surchauffe, de surdose, etc.
Marie-Ange Cornet, Christophe Marchand, merci beaucoup d'avoir
merci
participé à cette émission. Je vous propose à présent de nous plonger dans le dossier du magazine Espace de Liberté de ce mois d'avril, qui est justement consacré aux drogues et qui se pose cette question en titre, en une. Faudrait-il désintoxiquer la loi ? Yves Kengen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la communication du CAL et le rédacteur en chef du magazine Espace de Liberté. Pouvez-vous nous présenter le sommaire de ce dossier ?
Mais je ne vais pas vous présenter tout le sommaire parce que ça va être barbant. Je crois que le mieux, c'est de se procurer Espace de Liberté. Savez-vous, par exemple, ce que sont les Cannabis Social Clubs ?
Oui, mais je vous propose de répondre vous-même à vos questions.
Donc, ce sont des clubs, des associations, des ASBL, où les gens se réunissent pour cultiver ou produire leur propre consommation. Et ça se fait dans un cadre tout à fait légal, dans certaines contrées qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Et c'est des choses qui marcheraient très bien. On a cherché à donner la parole tant à ceux qui allaient dans le sens de ce que propose le CAL, c'est-à-dire la dépénalisation, la réduction des risques,
tout ce
etc.
dont on vient de parler pendant
tout ce
cette
dont
émission.
On vient de parler, mais on a également souhaité donner la parole aux personnes qui sont plutôt dans une position plus traditionnelle, c'est-à-dire celle de la criminalisation, histoire de garder l'éventail ouvert pour le lecteur et qu'il puisse exercer son libre examen et son libre arbitre.
Parfait, ce qui est donc le core business, comme on dit, d'Espace de Liberté. Dernière question, où trouve-t-on ce magazine ?
Alors, où trouve-t-on ce magazine ? Le mieux, c'est de s'adresser au Centre d'Action Laïque, donc cal@laïcité.net, et faire la demande d'une proposition d'abonnement. Ça coûte pas cher, c'est 20 euros par an, pas de quoi se ruiner. Et c'est très intéressant, on a des collaborateurs de très très haut niveau et donc je pense que c'est une brochure qui devrait être mieux connue. Alors il y a certaines librairies qui la diffusent, mais le mieux c'est quand même de s'adresser au Centre d'Action Laïque.
Très bien, Yves Kengen, merci beaucoup
merci
d'être venu en studio nous présenter le sommaire de ce numéro du mois d'avril d'Espace de Liberté. Voilà qui referme cette édition de Libre Ensemble. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, si le cœur vous en dit. Au revoir.